Laudetur Jesus Christus.
Large victoire des conservateurs aux législatives au Royaume-Uni. Boris Johnson obtient une majorité absolue des sièges aux communes. Le Brexit aura bien lieu le 31 janvier au plus tard. Les travaillistes essuient leur pire défaite depuis une trentaine d'années. Forte abstention hier lors de la présidentielle en Algérie, les électeurs ont confirmé leur opposition à un scrutin qu'ils n'ont cessé de dénoncer dans la rue depuis plusieurs mois. De nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui. Les religions unissent leurs efforts dans la lutte contre le virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Les différentes confessions tentent de protéger les agents de santé contre la colère de la population et les exactions des milices armées. Messe pour l'Amérique latine hier au Vatican à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Le pape a évoqué trois caractéristiques de la Vierge, sa féminité, sa maternité et son métissage. François fête aujourd'hui les 50 ans de son sacerdoce. Nous en parlerons avec le cardinal Marc Ouellet, le préfet de la Congrégation pour les évêques. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Le journal Xavier Sartre.
Bonjour. Au Royaume-Uni, victoire écrasante donc du Premier ministre Boris Johnson aux législatives. Les conservateurs devraient obtenir une majorité de plus de 70 sièges. Les travaillistes qui avaient mis l'accent sur la fin de l'austérité et un programme de réforme et d'investissement subissent, eux, leur plus grande défaite depuis 70 ans. Il est maintenant certain que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne avant le 31 janvier 2020. À Londres, Jean Jaffray.
Les sondages ne se sont cette fois pas trompés. Les conservateurs, au pouvoir depuis 9 ans, obtiennent 43% des voix. Les travaillistes, dont c'est la troisième défaite consécutive, 32%. Enfin, les Lib Dems, le parti centriste, 11%. Le Premier ministre Boris Johnson a maintenant la possibilité de faire voter avant Noël l'accord de divorce d'avec l'Union européenne, comme il l'a répété ad nauseam pendant la campagne. D'autant qu'avec une majorité de plus de 70 sièges, son gouvernement n'aura plus besoin du soutien de la cinquantaine d'élus partisans d'une rupture radicale avec l'Union européenne. Quant au leader travailliste, Jeremy Corbyn, il a estimé que le Brexit avait dominé la campagne aux dépens du programme de la gauche, l'un des plus radicaux depuis 1983. Le Labour a perdu plusieurs dizaines de ses bastions traditionnels qui avaient voté majoritairement non lors du référendum en 2016. En revanche, en Écosse, le parti nationaliste gagne des sièges aux dépens des conservateurs et des travaillistes. Nicola Sturgeon, la chef du SNP, très critique de Boris Johnson, a déclaré qu'il devait admettre qu'elle avait un mandat pour organiser un second référendum sur l'indépendance. Pour sa part, le Premier ministre a estimé lui aussi que la victoire de son parti aux élections lui donnait, je cite, « un nouveau mandat renforcé pour faire le Brexit, mais aussi pour unir le pays et aller de l'avant ». Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
Et parmi les premières réactions sur le continent, celle de la ministre française aux Affaires européennes qui considère que la victoire des conservateurs devrait permettre une clarification sur le Brexit, ce que réclamait l'Élysée depuis plusieurs mois. Le commissaire européen au marché unique et au numérique, Thierry Breton, veut lui que Bruxelles rebâtisse des relations avec Londres, notamment dans le secteur commercial, sur une base équilibrée. Le président américain lui félicité Boris Johnson pour cette grande victoire, assurant que dorénavant les États-Unis et le Royaume-Uni sont libres de conclure un énorme nouvel accord commercial, potentiellement beaucoup plus gros et plus lucratif que n'importe quel accord qui pourrait être conclu avec l'Union européenne. C'est ce qu'a écrit dans un tweet Donald Trump. C'est donc sans le Royaume-Uni que l'Union européenne doit devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Un accord a en effet été trouvé hier soir à Bruxelles à l'issue d'un conseil des chefs d'État et de gouvernement, lançant un signal fort en pleine COP25, a affirmé le président du Conseil européen, Charles Michel. Le texte n'a cependant pas été signé par la Pologne, qui n'est pas allée jusqu'à le bloquer. Toutefois, Varsovie a jusqu'en juin pour rejoindre ses partenaires. Les Algériens descendront-ils encore une fois dans la rue ce vendredi pour la 43e fois consécutive? Hier, malgré les tentatives musclées de la police de disperser la foule, des dizaines de milliers de personnes ont marché à Alger, la capitale, pour s'opposer à l'élection présidentielle en cours. Les résultats devraient être rendus publics dans la matinée. Marie Duhamel.
Les résultats du premier tour devraient être publiés à 11h. Déjà, un des cinq candidats, tous d'anciens collaborateurs de l'ex-président Bouteflika, se dit en tête avec 63% des suffrages exprimés. Mais que vaudrait la victoire d'Abdelmajid Tebboune dès le premier tour? La question de la légitimité du scrutin est en effet posée, car hier, moins de 4 Algériens sur 10 se sont rendus aux urnes, et ceux qui ont voté ont expliqué le faire par devoir et plus souvent encore par crainte de voir leur pays s'enliser dans la crise. Bref, on est loin d'un vote vote d'adhésion. 39,9% de participation. Ce chiffre est officiel et c'est le plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire d'Algérie, inférieur de 10 points au précédent scrutin en 2014 qui avait accordé une quatrième victoire sans aucun éclat à Abdelaziz Bouteflika. L'ambiance était morne hier dans les bureaux de vote souvent désertés. La rue, elle, ne l'était pas. Après 10 mois de contestation chaque vendredi, les membres du IRAK, le mouvement populaire inédit s'opposant au système au pouvoir, manifestaient encore en dépit des tentatives de dispersion des forces de l'ordre. Ils appelaient au boycott de la présidentielle en cours imposée par le chef de l'armée, une élection qu'ils perçoivent comme une manœuvre de survie du régime. Le IRAK, qui pourrait procéder aujourd'hui comme hier, à une nouvelle démonstration de force.
Marie Duhamel. Les dirigeants des 5 pays du Sahel devaient venir à Pau, dans le sud-ouest de la France, pour un sommet avec le président français lundi prochain. Eh bien, ce sommet est reporté. Décision prise par le président français après l'attaque de djihadistes mardi contre l'armée nigérienne. 71 soldats nigériens ont été tués. Avant même ce revers, la France voulait que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie clarifient leur position sur la présence militaire française au Sahel. Toutes les confessions religieuses unies contre l'épidémie de fièvre Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. La maladie a déjà causé la mort de plus de 2200 personnes depuis août 2018. Face à la difficulté de la juguler, les religions plus influentes dans la région que les autorités politiques veulent surtout aider à mettre fin aux violences de la population et des milices armées contre les agents de santé dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulégois.
Les confessions religieuses dont en tête l'Église catholique entendent surtout sensibiliser les jeunes, mais aussi les groupes armés jusqu'ici accusés de s'attaquer aux installations et aux agents de la riposte à la maladie à virus Ebola. Sans plus de détails, les communautés religieuses ont affirmé depuis Kinshasa qu'elles vont utiliser des canaux déjà existants, car plus d'un an après, l'épidémie a non seulement duré, mais a aussi fait plus de victimes et détruit les tissus économiques des zones dans lesquelles elle sévit. Les autorités sanitaires congolaises sont convaincues que l'engagement des confessions religieuses fera bouger les lignes sur le terrain. Ces 4 derniers jours ont été inquiétants. 23 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés dans les Nord Kivu et l'Ituri. Il faut dire que les activités visant à stopper la propagation du virus étaient perturbées dans ces zones à cause des violences. Si l'épidémie était déjà en retrait dans la province du Nord Kivu, l'Ituri, quant à elle, reste l'épicentre et la violence y est intense contre les équipes médicales. 3 agents de santé et un journaliste ont été tués dans le seul territoire de Mambasa. Pascal Moulégois, Kinshasa, Radio Vatican.
La colère contre la loi sur la citoyenneté en Inde ne diminue pas, tout particulièrement dans l'état de l'Assam, dans le nord-est du pays. Les autorités locales ont coupé aujourd'hui Internet à Guwahati, la principale ville de la région, après plusieurs manifestations au cours desquelles 2 personnes ont été tuées hier. Les protestataires dénoncent une loi qui facilite l'accès à la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Ils y voient une manière supplémentaire de marginaliser ainsi la minorité musulmane indienne. Hier, 12 décembre, l'Église fêtait Notre-Dame de Guadeloupe. À cette occasion, le pape François, comme les années précédentes, a célébré une messe dans la basilique Saint-Pierre dans l'après-midi. La Vierge de Guadeloupe, apparue au Mexique en 1531, au tout début de la colonisation espagnole, est vénérée sur l'ensemble du continent américain, du nord au sud. Retour sur cette messe avec Cyprien Viette.
Cette messe pour Notre-Dame de Guadeloupe est devenue une occasion de fête familiale et communautaire pour les communautés latino-américaines de Rome et d'Italie, fiers et émus de se rassembler autour de leur évêque venu lui aussi d'une terre éloignée dont il est certainement nostalgique. Dans son homélie courte et improvisée en espagnol, le pape François évoquait 3 adjectifs de la Vierge de Guadeloupe.
Maria est mujer.
Marie est femme, tout d'abord a rappelé le pape. Elle se présente comme femme et disciple. Elle ne s'est jamais présentée comme co-rédemptrice, mais simplement comme disciple de son fils, l'unique rédempteur. Marie se caractérise aussi par sa maternité.
Maria est madre nostra.
Marie est notre mère, elle est la mère de nos peuples, elle est la mère de nous tous. Certains pères de l'Église faisaient remarquer que ce qui se dit de Marie peut se dire d'une certaine façon de l'Église et de notre âme. L'Église est féminine, elle est animée par un principe marial. Dans la perspective de l'inculturation avec la culture latino-américaine, le pape argentin a aussi évoqué le métissage de Marie à travers son apparition auprès d'un Indien, Juan Diego. Elle s'est métissée avec son peuple, mais aussi en son fils, avec Dieu lui-même. Le pape a donc espéré qu'encore aujourd'hui, elle puisse nous parler comme elle a parlé. Parler à Juan Diego avec ses 3 caractéristiques, avec tendresse, avec chaleur féminine et avec la proximité du métissage.
Cyprien Viette. C'est donc le 13 décembre 1969 que Jorge Mario Bergoglio a été ordonné prêtre au sein de la Compagnie de Jésus, 4 jours seulement avant son 33e anniversaire. Hier soir, au terme de la messe donc célébrée, le cardinal Marc Ouellet, très ému, a rendu un vibrant hommage au Saint-Père. En tant que président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, il a exprimé sa reconnaissance et celle du peuple de Dieu au pape François pour sa façon d'exercer le sacerdoce avec un esprit d'humilité, de miséricorde, dans un esprit de réforme et de sainteté, en donnant la priorité aux personnes qui ont le plus besoin de charité et d'espérance. Le préfet de la Congrégation pour les évêques revient pour nous sur la paternité sacerdotale du pape.
Je crois que ce qui caractérise davantage sa vie sacerdotale, c'est la prière. Le pape est un homme de Dieu, il donne beaucoup de temps à la prière, il vit de la prière et il demande beaucoup la prière. C'est ce qu'il a de plus caractéristique et je crois que on peut ajouter sa dévotion mariale à l'intérieur de cette intensité spirituelle de communication avec le ciel, et bien la Vierge Marie qu'il va visiter avant chaque voyage et au retour et même dans d'autres circonstances est un de ses témoignages impressionnants.
Comment le Saint-Père incarne-t-il la figure du Père, qu'il est plutôt dans son rapport de pasteur à pasteur, de père à fils ou de frère aîné à jeune frère?
On retrouve toutes ces caractéristiques-là chez le pape. Quand nous vivons avec lui les synodes, il est vraiment le pasteur avec ses frères dans l'exercice du ministère. Quand il parle aux fidèles, par exemple, dans les audiences du mercredi, c'est vraiment le Père qui parle aux disciples du Seigneur. Et quand il nous traite, nous, ses collaborateurs ici à la Curie, eh bien, c'est plus le grand frère. C'est un homme simple et très fraternel.
Le pape François, en tant que père spirituel, accompagne, instruit, stimule, réconforte, mais aussi fustige parfois. Quel lien entretient-il avec ses fils, les prêtres ?
Il a beaucoup d'affection pour les prêtres. J'ai remarqué que quand il s'adresse à eux dans le contexte de méditation, par exemple, il leur parle d'une façon très affectueuse, mais en même temps, il fait des petites remarques critiques, parfois, qui ne sont pas très nombreuses. Mais souvent, c'est ce qui est retenu. Je crois que c'est un peu exagéré. En fait, il faut comprendre aussi que le Saint-Père est de la tradition des conseils évangéliques. Pauvreté, chasteté, obéissance, c'est sa spiritualité. C'est pourquoi le carriérisme, l'ambition, les commérages, tout cela, il trouve que cela blesse la charité et il insiste sur ces points-là.
La paternité spirituelle est un don de soi qui s'exprime notamment à travers la capacité à pleurer avec ceux qui pleurent. Comment le pape François vit-il et transmet-il cette grâce ?
C'est un des traits caractéristiques du pape François de faire précéder ses audiences avec le contact avec les malades, ceux qui viennent le voir, qui ont besoin d'être touchés par lui, parfois d'être embrassés par lui. Il est très présent aux gens qui sont écartés. Il a vraiment une sensibilité extrême pour la condition des gens qui souffrent. Ça, c'est un trait très fort chez lui. Je crois que c'est peut-être ce qui ressort davantage. C'est aussi un peu son esprit de miséricorde. Il incarne la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, sa préférence pour les pécheurs, pour retrouver ceux qui sont perdus. Tout cela, c'est son cœur de pasteur.
Qu'avez-vous envie de souhaiter au pape François à l'occasion de ce 50e anniversaire ?
Eh bien, j'espère et je lui souhaite que le Saint-Esprit lui donne toujours courage et puis lucidité dans son effort pastoral pour sauvegarder l'unité de l'Église.
Interrogé par Hélène Détourme, le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, était ce matin l'invité de la rédaction de Radio Vatican. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet. Très bonne journée à toutes et à tous.